parler, docteur Sophie Auriacombe. Je précise que vous êtes aussi neurologue au Centre Mémoire, Ressources et Recherches du CHU de Bordeaux.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai, la maladie d'Alzheimer, c'est une vieille dame de 85 ans. Typiquement, le gros de la troupe, très clairement, ce sont des personnes âgées, des personnes de plus de 80 ans. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de patients qui, pour différentes raisons, dont beaucoup ne sont pas connus d'ailleurs, vont débuter leur maladie à un âge jeune. Alors d'abord, une définition de ce que nous appelons jeune. En général, les malades jeunes sont tous ceux qui débutent leur maladie avant 65 ans. Et dans certaines publications, c'est 60 ans. Donc il y a une espèce de flou, c'est entre 60 et 65 ans. Mais pour le système d'assurance maladie, les jeunes, c'est plutôt avant 60 ans pour des histoires de système de protection. Après 60 ans, vous rentrez dans l'âge où vous pouvez bénéficier de l'APA. Et donc les jeunes, ce sont ceux qui ne bénéficient pas de l'APA. Hein, donc voilà, bon. Grosso modo, mais enfin un début avant 65 ans, de toute façon, c'est quand même très jeune. Chez ces personnes jeunes, alors je vous ai amené un schéma qui nous vient des hôpitaux de Lille. Il y a une dizaine d'années, ils avaient fait la répartition des causes de maladies avant 60 ans et après 60 ans. Et c'est simplement pour vous dire que autant la maladie d'Alzheimer est très prédominante chez les 60 ans et plus à votre droite, autant la maladie d'Alzheimer fait environ 30% des cas chez les patients de moins de 60 ans. Et vous allez voir un petit peu quelles sont les maladies les plus fréquentes. La maladie d'Alzheimer reste quand même la maladie, entre guillemets, dégénérative, la plus fréquente avant 60 ans, mais il y en a d'autres. Alors, je vous ai amené un exemple de notre file active de patients jeunes. C'était il y a environ 4-5 ans, mais ça n'a pas changé de façon fondamentale. Et qu'est-ce que vous voyez sur ces 76 personnes ? 47 ont une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est la prédominance, elle est très claire. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle DFT, les dégénérescences frontotemporales. Là, il y en avait 6. En général, c'est plutôt de l'ordre d'une dizaine. Et puis après, vous avez diverses maladies plus ou moins rares, comme la maladie à Cordelewy, les démences vasculaires, et des choses un petit peu à part, parce que ce sont pas des maladies évolutives, que sont les démences liées à l'alcool, mais ça fait un certain contingent de jeunes, d'autres causes de démences qui ne sont pas forcément évolutives. Mais dans les démences évolutives, première, maladie d'Alzheimer. Deuxième, dégénérescence frontotemporale. Et troisième, maladie à Cordelewy. Alors, ces maladies d'Alzheimer, on a eu la surprise relative de s'apercevoir que si la prédominance féminine est bien connue chez les plus âgés, elle est également énorme chez les plus jeunes. Hein, c'est considérable. Les trois quarts des jeunes Alzheimer sont des femmes. Pour des raisons alors qui sont pas du tout bien connues, mais enfin en tout cas il y a une prédominance féminine et il y a aussi dans ces formes de maladie d'Alzheimer les formes génétiques dont on parlait tout à l'heure, mais bien que les formes génétiques se trouvent chez les jeunes, parmi les jeunes Alzheimer, les formes génétiques sont encore très rares. On a une ou deux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer génétique parmi nos quelques 47 personnes jeunes. Donc jeune n'est pas égal à génétique, hein, c'est ça que je veux dire. Comme vous l'a dit Vincent tout à l'heure, vous avez des formes de maladie d'Alzheimer qui ne sont pas amnésiques, des formes débutant par le langage ou des formes visuelles où vous commencez par une trouble de la lecture, un trouble de l'orientation dans l'espace, et ces formes-là atypiques sont plus fréquentes aussi chez les patients jeunes. Les formes frontales semblent un peu plus rares. Les démences frontotemporales, deuxième cause de maladies neurodégénératives, ce sont des formes qui se manifestent plutôt par des troubles du comportement avec repli, apathie, des éléments de désinhibition, d'hyperphagie, des éléments dépressifs. Ou alors, ça commence par un trouble du langage, ce qui est plus évocateur d'une étiologie dégénérative. Et du fait de tous ces signes psychiatriques et comportementaux, la dégénérescence frontotemporale a également un diagnostic tardif, mais on verra que le diagnostic est tardif chez les jeunes d'une façon générale. Donc ça, ces modifications de comportement vont avoir très vite un retentissement dans les démences frontotemporales, avec une fréquence particulière, notamment de divorce et de séparation, en raison de ces troubles du comportement qui ne sont pas étiquetés et qui sont très mal compris de l'entourage. Maladie à Cordeley-Wy, juste pour, je vais pas détailler, mais enfin ça, c'est une maladie qui associe des signes intellectuels et des signes de maladie de Parkinson, avec tout un tas de signes un peu particuliers comme les hallucinations, les chutes, une certaine variété de troubles du comportement au moment du sommeil, et puis le tout dans une grande fluctuation. Donc c'est un tableau un peu particulier, bon, qui est plus rare chez les jeunes. Et enfin, je vous disais, vous avez les maladies cérébrovasculaires et les démences liées à l'alcool. Alors, comment on fait le diagnostic chez les jeunes? Moi, je dirais qu'on le fait vraiment à peu près comme chez les plus âgés, c'est-à-dire avec une bonne histoire clinique, de préférence rapportée par l'entourage. Comme vous disait Vincent, c'est vrai que l'entourage est souvent un élément très important de l'accès au diagnostic quand il s'aperçoit des choses dont les personnes atteintes peuvent ne pas toujours être conscientes. Examen neurologique, bien sûr. L'imagerie, c'est généralement une IRM. Un bilan biologique, surtout pour éliminer d'autres causes que la maladie d'Alzheimer. Et enfin, on a un outil depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qui est la ponction lombaire, avec la recherche de marqueurs de type Alzheimer que nous utilisons beaucoup chez les personnes jeunes, parce qu'on veut être particulièrement sûr du diagnostic, particulièrement sûr d'éliminer aussi d'autres causes. Donc il y a pratiquement tous nos patients jeunes atteints de maladie d'Alzheimer l'ont, avec une confirmation ponction lombaire et recherche de ces biomarqueurs. Alors, les malades jeunes ont quelques particularités. Le retard du diagnostic. Bon, ça, le retard du diagnostic, moi, je pense un peu que c'est quelque chose d'inévitable. Parce que, quand même, ça reste des maladies très rares. Quand quelqu'un modifie son comportement ou modifie sa mémoire avant 60 ans, encore sur son lieu de travail, la première chose à laquelle vous pensez n'est pas une maladie d'Alzheimer. Bien sûr que non. Donc, en général, ils vont chez le psychiatre ou chez l'ophtalmo s'ils ont un syndrome de Benson. Ils vont voir d'autres spécialistes. Mais l'idée d'une maladie d'Alzheimer avant 60 ans n'est vraiment pas la première. Donc, le retard est quasiment constant. La maladie peut se révéler par des difficultés au travail, et il faut se méfier beaucoup des burn-out entre 55 et 60 ans. La personne n'est plus tout à fait fonctionnelle sur le milieu du travail, elle se fait harceler, et je trouve que beaucoup de nos patients rentrent ont un antécédent ou une histoire de burn-out au travail. Les problèmes familiaux qui sont importants chez les personnes plus âgées sont doublement importants chez les jeunes, puisqu'ils ont à la fois leurs enfants et leurs parents. Et c'est pas du tout facile. Leurs parents qui, quelquefois, eux, sont en très bonne santé. Donc ça donne des consultations étranges dans lesquelles vous avez une personne de 60 ans et sa vieille maman de 85 ans qui vient l'accompagner. Alors, je dirais que les conjoints, pour les conjoints, c'est très très difficile, pour les enfants aussi, qui ont eux plutôt tendance à se retirer, je dirais. Mais le plus difficile, c'est pour les parents. Vraiment, pour un parent, que son enfant ait une maladie d'Alzheimer, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez inimaginable. Parmi nos patients jeunes aussi, en termes de symptômes, on a énormément d'états dépressifs. Les gens, surtout au début de la maladie, mais presque tout du long, ont une conscience très douloureuse de leur trouble, qui va quelquefois pouvoir persister. Alors cette dépression, elle est favorisée par les antécédents dépressifs. Si la personne l'était déjà, ça va s'amplifier. Et elle est quelquefois un petit peu difficile à traiter. On pense qu'elle est liée à la fois à la conscience au moins partielle de la maladie, mais aussi probablement à la maladie, aux lésions cérébrales de la maladie elle-même. Il y a probablement un petit peu des deux. Et enfin, un sujet qu'on n'aborde pas avec les familles, ou en tout cas, moi je l'aborde très difficilement, ça c'est sûr, c'est la mortalité. Parce qu'en fait, ces personnes qui ont 55-60 ans au début de leur maladie, beaucoup ne verront pas leurs 70 ans. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas facile à... Je crois que l'entourage ne le saisit pas tout de suite, et c'est difficile d'en parler. En général, on en parle un petit peu au fil du temps, mais je trouve que cette mortalité précoce, qui est pourtant tout à fait certaine, c'est un sujet qui est difficile quand même à aborder. Alors, mortalité précoce, tout est relatif, hein, si vous voulez. Les gens peuvent, surtout les patients jeunes, survivre encore un certain nombre d'années parce qu'ils sont en bonne santé par ailleurs. Mais ils peuvent avoir comme ça donc des phases de déclin qui sont très prolongées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Le parcours, c'est bien entendu au domicile. Pour des jeunes, on va tirer, si j'ose dire, sur le domicile le plus possible. Mais ça, comme vous savez, ça dépend de l'entourage. Et il y a aussi parmi ces jeunes des personnes seules, qui sont divorcés, qui n'ont plus de conjoint. Donc ça va compliquer considérablement les choses. Et même quand il y a un conjoint, ce conjoint travaille, qu'est-ce qu'on fait de cette personne jeune à domicile? Ça, c'est un sujet qui est encore pas très très bien résolu, puisque les accueils de jour accueillent des personnes souvent de plus de 80 ans. Ils sont pas faits pour recevoir des gens de 60 ans en bonne santé, qui n'ont absolument pas le même rythme de vie. Donc, il y a quand même un trou un petit peu dans la raquette au niveau de l'accueil journalier de ces personnes, qui ensuite, de toute façon, en général, vont quand même en EHPAD. EHPAD qui elles-mêmes ne sont pas faites vraiment pour recevoir des personnes jeunes. Alors, il y a des EHPAD qui sont mieux que d'autres, mais il y a rien de parfait, et il y a très peu d'établissements en France qui, je crois qu'il y en a deux vraiment qu'on peut identifier qui fonctionnent, qui sont des EHPAD officiellement pour les personnes jeunes. Hein, donc il y en a quand même très très peu. Par contre, point positif, la MDPH. La MDPH, si on la saisit suffisamment tôt, va pouvoir mettre à domicile des plans d'aide quasi exhaustif, quasi 24 heures sur 24. Ça, c'est extrêmement utile quand on a encore son conjoint et qu'il travaille. Ça va permettre de se substituer un petit peu au conjoint. Ça, c'est une excellente chose. Et enfin, en termes de traitement, c'est le docteur Planche qui vous en a parlé. Pareil, on est en attente quand même de traitements plus efficaces. C'est vrai que ceux qu'on a ne sont ni inefficaces ni dangereux, mais ils sont pas suffisants. Et sinon, on se sert énormément en pratique des psychotropes, puisque comme je vous disais, il y a quand même énormément de dépression et de choses comme ça, et ce sont des symptômes d'anxiété. Et ça se traite. Donc, il faut pas hésiter à traiter largement. Voilà ce que je voulais vous dire pour les malades jeunes. Est-ce que vous avez des questions?